Domingo, catene.
C'est pas du vent.
Vos tenés que entrar de humana, quiero que entre como humana.
C'est pas du vent.
Catene.
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. Le rapport mondial sur l'état du vivant que vient de publier l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, est effrayant. 1 million d'espèces animales et végétales, soit 1 sur 8, risquent de disparaître dans peu de temps. Mais éviter le pire est encore possible, dit le rapport. Encore faut-il que la mobilisation soit au rendez-vous. Alors sur qui pouvons-nous compter? Les ministres de l'environnement des 7 pays les plus industrialisés se sont réunis à Metz, dans l'est de la France, avec une dizaine d'autres. Ils ont publié une charte sur la biodiversité, non contraignante et sans objectif chiffré, juste un moyen d'affirmer qu'ils se sentent concernés, mais surtout sans s'engager. Et les zoos, aquariums et parcs animaliers qui se présentent comme des arches de Noé, l'ultime solution pour sauvegarder des espèces en voie d'extinction. Et bien curieusement, on ne les a ni vus ni entendus durant cette semaine si agitée autour des périls qui menacent la biodiversité. Pas un mot ni d'édito sur leur site internet respectif. Nous avons donc eu envie d'en savoir plus sur leur rôle et c'est ce que nous allons faire avec nos invités, avec toutefois un regret: ni le ministère français de la transition écologique et solidaire, ni l'AFDPZ, l'association française des parcs animaliers et aquariums, n'ont répondu à notre invitation. L'adage dit que les absents ont toujours tort. J'espère qu'ils n'auront pas de regrets.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jérôme Pansu.
Bonjour.
Vous travaillez depuis quoi, plus de 30 ans ?
35 ans.
35 ans dans le domaine de la protection de la faune sauvage et vous avez créé le Biome, une station zoologique d'élevage d'espèces en danger d'extinction que vous nous présenterez en quelques mots. À vos côtés, Florian Sigrund, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur spécialisé en bien-être et protection animale et vous êtes le vice-président de l'association Cétacés qui se bat contre la maltraitance des cétacés en captivité. Et en ligne avec nous depuis Dar es Salaam en Tanzanie, Perrine Crosemary, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association ISSA, Human Initiative to Save Animals, qui travaille sur des projets de réhabilitation d'animaux sauvages issus de la captivité ou du commerce. Alors, avant de vous donner la parole, comme nous n'avons pas de représentants du monde des zoos ou des parcs animaliers avec nous, et une fois de plus, je le regrette, je vous propose d'aller au zoo, celui de Vincennes, près de Paris. Nous ne sommes pas allés très loin. 1000 animaux, 180 espèces réparties sur une quinzaine d'hectares, divisées en 16 milieux naturels reconstitués. Nous avons rendez-vous avec Alexis Lécu, il est le vétérinaire et le directeur scientifique du zoo.
Là, on est dans la Guyane, on est justement en train de faire la transition entre l'Europe et la Guyane. Le but, c'est vraiment de montrer qu'on a toute une biodiversité, reptiles, amphibiens, mais aussi grands carnivores. Et quand on arrive ici en Guyane, qui est lui aussi un territoire français, c'est de montrer qu'on a les capybaras que vous voyez ici, les papyrs, des espèces que le public ne connaît pas très bien d'ailleurs. Capybara, c'est quand même le plus gros rongeur qui existe. Le tapir, un peu méconnu, les chiens des buissons, les gens ne connaissent même pas cette espèce. Donc on leur montre toute une série d'espèces un petit peu atypiques pour après les conduire au jaguar et dans la grande serre.
Alors au total, il y a 1000 animaux, 180 espèces, 16 milieux naturels. Sur quels critères ont-ils été choisis? Justement, c'est sur ces critères de préservation, de sensibilisation.
Il n'y a pas eu un critère, en fait. Il y a eu de nombreux groupes de travail qui ont réuni à la fois des gens du parc zoologique, des gens du muséum, des gens d'associations. Tout le monde a été mis autour de la table avec différents groupes. Il y a eu une espèce de score, si vous voulez appeler ça comme ça, de certaines espèces, certains animaux, en fonction de leur attractivité pour le public, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même un service public avec des gens qui payent pour venir voir des animaux, donc on ne peut pas faire un zoo qu'avec des phasmes et 3 oiseaux. 2, effectivement, leur état de menace dans la nature, des programmes de réintroduction, des programmes de conservation qui sont mis en place soit en captivité, des programmes d'élevage, et puis aussi des projets qu'a le muséum ou le parc zoologique dans le milieu naturel. Donc tout ça, ça fait un espèce de score par espèce, et ces 160-180 espèces que vous avez sont le fruit de ce classement.
Et là, nous sommes sur l'île des Lémuriens et nous allons rencontrer celle qui s'occupe non seulement de leur entretien ici aux eaux de Vincennes, mais qui est engagée dans la politique de leur préservation à Madagascar, puisque les Lémuriens sont vraiment menacés. Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Delphine Roulet et je suis responsable des primates au Parc zoologique de Paris. On a 17 espèces, enfin on aura 17 espèces parce qu'on en attend encore une petite dernière qui arrivera un petit peu plus tard. Et on a 8 espèces de lémuriens sur le site actuellement.
17 espèces, comment elles ont été sélectionnées ?
Les espèces de primates qui sont actuellement au parc ont été sélectionnées selon différents critères. Un critère de conservation, un critère pédagogique, un critère scientifique. On s'est aussi basé sur les recommandations des programmes d'élevage européens pour savoir quelle espèce était prioritaire. Et puis des liens qu'on pouvait faire aussi avec des projets de conservation à Madagascar.
Vous vous occupez des lémuriens ici, entre autres, parmi les primates. Et le parc zoologique de Paris a été depuis toujours un lieu un peu pilote pour la défense de cette espèce qui, on peut le rappeler, est extrêmement menacée aujourd'hui.
Oui, alors les lémuriens, c'est une longue histoire. Le parc a été une institution pilote où on a élevé les premiers propriétés couronnées, les premiers grands appâts lémures, les premiers lémures variés à ceinture blanche. On a fondé ces populations captives en collaboration avec le gouvernement malgache, donc c'était fin des années 80. Et puis au fur et à mesure, on a lié des liens aussi avec l'In-Situ, on soutient des projets de conservation pour ces espèces en particulier, mais aussi pour d'autres espèces comme le lémur aux yeux turquoise, parce que le parc fait partie d'une association qui travaille aussi à Madagascar, mais sur le lémur aux yeux turquoise.
Et s'il y a autant de mobilisation sur cette espèce, c'est parce qu'elle est très menacée aujourd'hui ?
C'est le groupe de primates le plus menacé au monde, parce que les lémuriens, on les trouve qu'à Madagascar. Il y a des espèces qui sont en danger critique d'extinction. Et l'année dernière, en fait, tout le statut de conservation des lémuriens pratiquement ont été revus à la hausse, sauf pour le grand appât lémur, grâce aux actions de conservation qui ont été menées par les parcs zoologiques, avec en tête le parc zoologique de Paris. Donc on a l'ambition de jouer un rôle... un vrai rôle dans la conservation de ces lémuriens, mais pas seulement en captivité, mais à Madagascar, dans leur milieu d'origine.
Et est-ce que ça veut dire que les lémuriens, toutes espèces confondues, hein, qui sont sauvés ici dans les parcs, préservés, à terme, peuvent être réintroduits dans les milieux naturels ?
Alors ça dépend des espèces, c'est vraiment au cas par cas. Pour le grand appât lémur, non, parce qu'en fait on a une toute petite population captive de 25 individus et retirer un individu ça aurait un impact sur la survie du programme d'élevage. Donc eux en fait, leur rôle essentiel c'est de sensibiliser les visiteurs à leur cause, mais sensibiliser aussi des bailleurs potentiels, des donateurs potentiels pour nous permettre de soutenir les actions d'Elpsimus sur le terrain. Et puis pour d'autres espèces comme le lémur varip, qui est une espèce aussi pour laquelle on coordonne le programme d'élevage. Là, on a un programme d'élevage qui est important. On a plus de 350 individus en Europe. Et là, on est en position de dire, bon, voilà, on a une population qui est importante, on a des surplus. Donc ces surplus, aujourd'hui, on est capable de renforcer des populations sauvages. Et là, on est en train de réfléchir justement sur un projet de renforcement, de réintroduction sur un site où il y avait des variéraux avant, à Madagascar, et où il n'y en a plus. Donc ça dépend vraiment, en fait, c'est du cas par cas, en fonction de l'état des populations captives qu'on a, mais aussi en fonction des différents projets de conservation in situ. Et évidemment, des financements, puisque là, c'est un peu le nerf de la guerre.
Et ce programme dédié aux lémuriens est emblématique de ce qui se fait, même pour d'autres espèces. Hein. Ici, par exemple, il y a les babouins de Guinée, la loutre d'Europe. Ce sont des espèces qui sont extrêmement menacées. Et tous les zoos européens travaillent en réseau pour protéger ces espèces.
Oui, en fait, on a une association européenne, qui est l'Association européenne des zoos et aquariums. Et c'est au sein de cette association que sont gérés les programmes d'élevage européens, avec l'idée d'avoir des populations qui soient suffisamment viables et diversifiées au niveau génétique pour éventuellement, quand c'est possible, participer à ce type de programme comme les variéroux, où là, on est capable de dire oui, on va essayer de réintroduire ou de faire perdurer le plus longtemps possible les populations captives pour faire perdurer aussi l'implication des parcs dans tel ou tel projet. Parce qu'évidemment, quand on a l'espèce à présenter ou une espèce proche, c'est plus facile de sensibiliser les gens en leur montrant l'animal, comment il vit, en éventuellement créer des liens, puisqu'on a un système de parrainage. Donc par exemple, nos visiteurs peuvent parrainer un grand appât lémur et du coup se sentir directement impliqués dans la sauvegarde de cet animal. C'est beaucoup plus facile quand l'espèce est en captivité. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu, je pense, cette poignée d'individus en captivité en Europe, on n'aurait pas eu tous ces programmes de conservation à un moment où en fait on pensait l'espèce au bord de l'extinction.
Jérôme Pansu, nous venons d'entendre à travers ce reportage les arguments que mettent en avant les zoos du monde entier. Là, c'est celui de Vincennes, mais c'est partout pareil. Sont des lieux de pédagogie, tout d'abord pour sensibiliser les visiteurs à la richesse de la biodiversité. C'est vrai que sans le zoo de Vincennes, les Parisiens n'auraient jamais vu de lémuriens, par exemple.
Ça, c'est une évidence. Et je me souviens avoir vu mes premiers animaux sauvages en vrai dans des établissements zoologiques. Je peux même dire aujourd'hui, et sans du tout plaider la cause souvent indéfendable des parcs zoologiques, que sans doute qu'elle a contribué à une partie de mon orientation professionnelle.
Donc comme quoi cette pédagogie fonctionne ?
Alors la pédagogie n'est pas forcément à remettre en cause, en fait c'est l'objectif du parc zoologique. C'est-à-dire qu'il faut juste appeler un chat un chat. Un parc zoologique est un établissement dans lequel on montre des animaux. Le premier objectif c'est celui-là, c'est un objectif financier. La conservation, la pédagogie, c'est des choses qui rentrent dans la législation à partir de 2004 et uniquement de 2004. Et la conservation, en tout cas ce qu'on appelle dans la législation le haut niveau d'élevage des espèces, est une obligation législative. Ensuite, il ne faut pas oublier que pour avoir des zoos, il a fallu capturer dans la nature. Il y a eu des centaines et des centaines de milliers de morts. Il y a eu des pratiques d'un autre âge qui étaient tout à fait contestables. Et en fait, les zoos d'aujourd'hui sont un héritage de cela. La participation à la conservation, à mon sens en tout cas, c'est pas un cadeau qu'ils font, mais c'est plutôt une espèce de taxe qu'ils doivent. C'est-à-dire que, à minima, ce qu'ils doivent faire, c'est les réserves qu'ils ont en espèces, quand ils ont des réserves d'espèces intéressantes, pure génétiquement, pure comportementalement, ils doivent les remettre à disposition de la biodiversité. Faut pas inverser le rôle. Ce n'est pas le zoo qui sauvera les espèces en danger d'extinction. Faut pas oublier qu'il faut 3 générations pour ce qu'on appelle un glissement génétique, c'est-à-dire que pour une espèce, notamment un prédateur, perde tous ses instincts.
Alors, les arguments quand même, notamment de l'Association européenne des parcs animaliers, c'est de dire que depuis la création dans les années 80 des programmes européens d'élevage, les zoos participent à la conservation. Alors aujourd'hui, il y a 400 zoos de 54 pays qui participent à des programmes d'élevage pour multiplier les naissances afin, je cite, d'avoir un réservoir d'animaux suffisant pour assurer leur avenir. Et ces animaux sont répertoriés dans des studbooks, j'appelle ça, des livres généalogiques qui permettent de préserver le patrimoine génétique de l'espèce née en captivité. Comme on l'a entendu dans le reportage, ils pourraient être réintroduits dans la nature ultérieurement si leur milieu le permettait.
C'est ça. Alors en fait, vraiment, la totalité de l'argumentaire conservation des zoos s'appuie sur ce qu'on appelle les plans d'élevage européens, notamment parce qu'ils sont organisés par l'EASA, association européenne. Il faut quand même savoir que ce qu'on appelle un plan d'élevage européen, c'est que vous avez un studbook, comme vous l'avez dit, un registre dans lequel on va inscrire les mâles, les femelles, et on va faire en sorte que les mères ne soient pas croisées avec leurs fils et les pères avec leurs filles. Voilà, donc on tient une sorte de livre génétique. Ça fait 200 ans que ça se fait dans les haras nationaux. On appelle ça de la gestion de cheptel. C'est pas de la conservation. C'est-à-dire qu'à minima, on détient des espèces en évitant de les hybrider et en évitant la consanguinité. C'est pas ça la conservation. Ça, c'est du maintien en captivité de populations génétiquement pures et ça ne se fait que depuis 86.
Comment percevez-vous cette approche, Perrine Crosemary ?
C'est vrai que moi, contrairement à Jérôme, quand j'ai été la première fois dans un zoo, moi, ma réaction, ça a été comment je peux les sortir de là ? Le constat, il est en France, il est ou en Europe. Il est ce qu'il est, moi je travaille aussi sur un domaine un peu particulier, c'est qu'on essaye effectivement de relâcher des animaux issus de la captivité ou du trafic dans des zones naturelles. Donc on essaye, nous, avec notre association, ISA, de trouver des zones sauvages et d'essayer de relâcher des animaux issus de la captivité dans ces zones sauvages.
On va en parler dans un instant, parce que ça fait partie des solutions. Mais vous qui suivez les trafics d'espèces sauvages sur le continent africain, vous dites clairement qu'il y a du trafic à destination des zoos.
Alors ça, c'est évident. Tout a commencé, en fait, pour moi personnellement, par un travail d'investigation au niveau du Zimbabwe, où actuellement 35 éléphantos ont été capturés en 2018 dans le parc national de Wangé. Alors, ils sont toujours là-bas. Il y a une commande de la Chine de 200 éléphants, des petits qui sont censés avoir 8 ans et plus, et pour certains, ils ont 2 ans. Donc, ils sont trop petit pour la capture. Ces 35 éléphants qui ont été volés à leur mère, à leur famille, sont les derniers d'une liste d'animaux sauvages qui ont été vendus par le Zimbabwe à destination des zoos et safari parks de plus en plus à la mode pour les pays asiatiques, la Chine bien sûr, et les Émirats Arabes Unis. Alors en fait, on s'est rendu compte que ces 35 éléphants, dont bien sûr il y avait d'autres espèces qui étaient aussi dans les lots de commandes de ces pays, on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement au Zimbabwe, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique. Alors on a formé une coalition d'enquêteurs et d'associations. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des captures d'okapi, de gorilles au Congo, mais aussi de chimpanzés, de bonobos, d'énormément d'espèces à destination de la Chine. On s'est renseigné un peu plus et puis on a vu aussi qu'il y avait de la capture en Tanzanie, là où j'habite, et aussi en Afrique du Sud, où il y a un rapport qui va sortir au mois de juillet de l'association Ban Animal Trade. Donc il y a plusieurs enquêteurs qui partent en Chine, qui se renseignent et qui regardent un petit peu comment ça se passe, parce que c'est extrêmement cruel à la base, bien sûr, mais aussi c'est surtout que c'est à l'infini, sachant qu'il y a apparemment plus de 15 000 zoos dans toute la Chine. Alors bon, c'est selon les statistiques et les parcs, donc il faut alimenter ces zoos, et souvent comme le parc qui est un parc qui se situe à côté de Shanghai, en face du Disneyland, et qui est en fait évalué à 2,5 milliards d'euros, qui est le plus grand safari, parc et cirque du monde, qui va ouvrir ses portes. C'est un parc à thème, donc il y a 7 thèmes, il y a 13 centres commerciaux, un zoo, un parc marin, un parc d'attractions, un parc aquatique, un cirque immense avec des représentations de tigres, mais aussi d'ours, une ferme pédagogique, une vieille ville, des restaurants, des hôtels, un parc zone humide, parce qu'ils ont construit sur une zone humide extrêmement, enfin qui était magnifique, et ils ont détruit une forêt pour construire ce qu'on appelle un complexe. Donc là, on a quand même 1,5 milliard de gens en Chine. Ils ont tous envie d'aller aux zoos, de consommer la nature et de voir des animaux sauvages. Donc on est en train de puiser dans les ressources de l'Afrique, et ça reste légal puisque l'animal est une ressource, hein, la nature est une ressource. Souvent, il y a des faux papiers, hein, bien sûr. Donc là, ce qu'on fait, nous, avec cette coalition, et grâce à d'extraordinaires avocats au Zimbabwe, qui sont les PES Lawyers, People and Earth Solidarity Last Network, eux, ils travaillent justement, ils ont fait une pétition contre le Zimbabwe en mars, parce que dans la constitution zimbabwéenne, en fait, les citoyens doivent être mis au courant des actes qui concernent leur patrimoine naturel. Et aussi, ça doit apparaître dans la CITES, qui est en ligne sur Internet. Et on ne voit rien. Il y a un énorme manque de transparence. Il faut que ça passe par la justice pour qu'on puisse peut-être arriver à faire que ces éléphants qui sont censés partir fin mai ne partent pas et restent au Zimbabwe.
Merci Perrine. Alors justement, nous sommes en ligne avec notre correspondant en Chine. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Anne-Cécile.
Et alors en Chine, le concept de parc animalier dont parlait Perrine à l'instant est selon ses concepteurs hein, l'art de protéger l'animal dans son milieu naturel avec notamment ce que l'on appelle les kingdoms. Ce sont de véritables royaumes de l'animal dans son milieu naturel, en tout cas sur le papier. Mais en réalité, Stéphane, vous êtes renseigné, il s'agit d'abord d'une industrie.
Oui, d'abord quelques chiffres, Anne-Cécile. La Chine compte aujourd'hui près de 800 zoos et parcs animaliers. Chaque province, chaque grande ville, hein, on entendait parler de Shanghai à l'instant, a le sien, voire plusieurs. C'est une industrie qui totalise plus de 44 milliards d'euros d'actifs. Et comme souvent en Chine, on est ici dans du quantitatif, du grand, du très grand, hein, même avec, effectivement, depuis une dizaine d'années, le développement de ces fameux royaumes de la chaîne de parcs d'attractions Shimlong, des animaux dans leur milieu naturel, nous dit-on, et notamment dans le plus visité de ces parcs animaliers, le Shimlong Paradise de Canton, près de 4 milliards d'euros de recettes hein, quand même, 30 millions de visiteurs, eh bien, un paradis et un voyage en terre africaine avec ce qu'on appelle, un nom qui laisse rêveur en tout cas, le Safari Park là-bas, ouvert depuis 1997 et qui compte aujourd'hui près de 500 espèces, 20 000 animaux venus souvent de très loin. La presse chinoise, j'ai fait une petite recherche, a été marquée notamment par l'arrivée d'un groupe de 30 girafes venus dans un même bateau d'Afrique du Sud, un couple de tigres blancs aussi venus de Suède, si je ne me trompe pas, que les soigneurs seraient parvenus à reproduire à Shimlong. Shimlong se veut en effet un lieu d'élevage, tout ça évidemment, Anne-Cécile, associé à un parc aquatique, le plus grand d'Asie. Ce modèle est décliné encore une fois dans plusieurs provinces, je pense notamment au Shimlong Parc Aquatique de Zhuhai. C'est un business très lucratif qui est associé à l'importation, vous venez d'en parler, d'espèces venues d'Afrique, mais aussi au trafic malheureusement. La dernière grande affaire remonte à la fête du printemps, le 11 février dernier, une centaine de bébés phoques ont été kidnappés, en tout cas retirés de leur zone de reproduction naturelle dans la baie de Liaodong, hein, c'est dans le nord-est du pays, une zone pourtant protégés par le ministère de l'Agriculture. Ici, les trafiquants les ont emmenés, Anne-Cécile, dans une ferme d'élevage. Une quarantaine de ces bébés phoques étaient déjà morts quand la police est intervenue.
Alors, ce que disent les promoteurs de ces parcs animaliers, Stéphane, c'est que contrairement aux vieux zoos, les animaux ne sont plus en cage, ils se sentent mieux, ils se reproduisent, ils ont plus d'espace.
Oui, alors on revient de loin en fait, hein, car il y a eu de nombreux scandales en Chine ces dernières années. Je ne vais pas tous vous les citer, j'en cite un en tout cas, notamment celui de la forêt de Shenyang, c'est dans le nord-est du pays. À cause du développement urbain de Cécile, dans les années 90, le zoo a été déplacé dans la banlieue de cette ville et racheté par une entreprise privée, criblée de dettes. En 2010, 11 tigres y sont morts de faim et 2010, c'était l'année du tigre. Du coup, ça fait un gros scandale. La ville a repris la direction du site et aujourd'hui, le zoo de Shenyang est lui aussi devenu un parc animalier où, de fait, les animaux sont mieux traités, mieux qu'avant, en tout cas au moins ils ne meurent pas de faim.
Et alors selon de nombreuses ONG, notamment chinoises, ces parcs restent des parcs d'attractions, ils ne contribuent pas à la biodiversité et on y constate de nombreux cas de maltraitance animale.
Oui, c'est vrai que ce qui apparaissait comme une solution, finir avec la vétusté des zoos, sortir les animaux de leur cage ne suffit pas en réalité à promouvoir la diversité, ce serait même le contraire selon les ONG. Je prends par exemple le cas des cétacés du Shimlong Ocean Kingdom de Zora, je vous en ai parlé, hein, c'est dans le sud du pays. 9 orques ont été capturés près des îles Sakhaline et importés de Russie depuis 2013. Et le parc a mis en place ce qu'ils appellent une ferme là-bas, un centre de reproduction des épeaulards. Et que disent les ONG chinoises? Je pense notamment au CCA, l'Alliance chinoise des cétaliers, eh bien que les orques sont exposés à des risques de consanguinité, que leur régime alimentaire n'est pas adapté. Même chose pour les dauphins blancs, hein, venus de Singapour, ou les pingouins qui souffriraient également dans un environnement subtropical, selon la Société de conservation des dauphins de Hong Kong.
Merci Stéphane Lagarde pour ce tableau accablant. Florian Sigronde, on l'entendait, hein, il n'y a pas que la biodiversité terrestre qui est malmenée, il y a aussi la biodiversité marine, notamment les cétacés. Et avec votre association, vous vous battez pour justement la défense de ces animaux en captivité.
Oui, effectivement, du coup, on se bat à l'échelle française et à l'échelle européenne pour faire avancer toutes les réglementations autour des delphinariums, mais on dénonce également les différents massacres qui ont lieu à travers le monde et qui, notamment, permettent d'approvisionner les nombreux delphinariums qui se développent aussi bien au Moyen-Orient qu'en Chine. Il y en a plus d'une soixantaine actuellement, avec 20 delphinariums qui sont en cours de finalisation. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, un exemple, en 2018, la Russie a accordé un quota de capture de 13 orques à destination des différents delphinariums chinois. Des commandes également directement sur le continent africain. En 2016, on s'est rendu compte qu'une commande avait été faite au gouvernement de Namibie pour la Chine de 10 orques, de 100 otaries, 300 à 500 manchots, 50 à 100 dauphins et tout un nombre impressionnant d'espèces de requins.
Une petite question pratique, comment un orque se déplace de Namibie en Chine?
Il est transporté. Ça peut être par avion ou ça peut être...
Par avion, les orques prennent l'avion. Donc, alors il y a une affaire qui fait du bruit actuellement en France. Bonjour Lamia Essemlali.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Sea Shepherd France et suite au décès du dernier requin marteau à Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe situé à Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France, vous avez décidé de porter plainte contre cette entreprise. Pour quel motif?
Alors on dépose plainte pour sévices graves et puis pour manquement à la réglementation sur les conditions de captivité, puisque la plupart des petits qui ont été détenus à Nausicaa se sont dévorés entre eux, alors que normalement il aurait fallu prendre les mesures nécessaires pour éviter que ça arrive, puisque la loi normalement oblige à ce que les animaux ne soient pas soumis au stress et à l'agressivité de leurs congénères. Voilà, donc dans un premier temps, puis on veut faire la lumière aussi sur les certificats de capacité des personnes qui se sont occupées des requins.
Parce qu'il y a 30 requins marteaux donc, qui ont été capturés dans leur milieu naturel à l'état juvénile il y a 8 ans. Dans quelles conditions et est-ce légal?
Ah ben justement, c'est là-dessus qu'on veut faire la lumière, dans quelles conditions ils ont été capturés, voir si tout a été respecté. Après, nous, ce qui nous pose aussi problème, c'est l'argument de la conservation qui est avancé par Nausicaa, sachant que c'est une espèce dont on sait qu'elle supporte très très mal la captivité et dont la première cause de disparition dans son milieu naturel est le braconnage. Donc la meilleure chose à faire si on veut conserver l'espèce, c'est de lutter contre le braconnage. Là, le projet de Nausicaa a coûté énormément d'argent de fonds publics. Cet argent, s'il avait été investi dans la protection des lieux de vie des requins, et notamment à Malpelo par exemple, ça aurait sauvé beaucoup plus de requins marteaux.
Oui, alors ils affichent à peu près de 200 000 euros. Alors l'argument de Nausicaa, c'est que exposer des requins marteaux aux yeux du public, ça permet de sensibiliser justement à leur protection.
Ben, on n'apprend pas, on n'apprend même rien hein, sur un requin marteau à le voir évoluer dans un bassin dans des conditions qui ne sont pas du tout naturelles. Cet argument pédagogique, il est effectivement invoqué par l'industrie de la captivité d'une manière générale. Si on veut apprendre des choses sur les animaux sauvages, il y a des très bons documentaires qui sont faits là-dessus aujourd'hui, ou alors aller les voir dans leur milieu sauvage. Mais là, on a affaire à de l'exhibition, l'exposition d'animaux dans des conditions complètement artificielles. Il n'y a absolument rien à apprendre, c'est plutôt une forme de consommation de la vie sauvage. C'est un spectacle, en fait, tout simplement.
Alors Philippe Valette, qui est donc le directeur de Nausicaa, dit lui qu'il faut pouvoir observer ces animaux 24 heures sur 24 si on veut faire progresser la connaissance.
On les observe très bien en milieu naturel. Encore une fois, il n'y a rien à apprendre d'animaux qui sont maintenus dans des conditions complètement artificielles. Qu'est-ce qu'ils ont appris avec ces requins-marteaux qui sont tous morts? Ils nous avancent qu'ils se sont rendus compte que quand ils s'endorment, ils sont peut-être plus vulnérables au braconnage. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas un scoop. Il n'y a rien qui est ressorti de cette expérience. Qu'est-ce qu'il a appris de concret que les biologistes marins qui les observent dans leur milieu naturel ne savent pas déjà? Rien du tout.
Alors Frédéric Cuvillier, qui est ancien ministre de la mer, président de la communauté de communes où se trouve Nausicaa et membre du conseil d'administration de l'aquarium, a demandé finalement qu'à l'initiative de Nausicaa, un comité d'experts se réunisse pour mettre en place un plan d'action pour la sauvegarde de l'espèce des requins-marteaux.
Oui, mais c'est ridicule, c'est encore de l'esbrouf, ça. La conservation des requins-marteaux, elle passe par la lutte contre le braconnage. C'est la première cause de mortalité. Donc il n'y a pas besoin d'un comité d'experts. Les requins-marteaux, ils s'en sortent très bien en milieu naturel. Hein. Ils meurent parce qu'ils sont braconnés.
Ils sont braconnés pour leur aileron.
Ils sont braconnés essentiellement pour leurs ailerons, effectivement. Ils sont aussi arrachés à leur milieu naturel pour parfois des exploitations commerciales. Mais voilà, si on veut sauver les requins-marteaux, on lutte contre le braconnage. C'est tout. Il n'y a pas besoin de réunir un comité d'experts à la demande de Nausicaa. Enfin, nous, on est sur place à Malpelo, aux îles Coco, et on fait de la lutte contre le braconnage. Que Nausicaa vienne avec nous voir comment ça se passe. Ils en apprendront bien plus sur la conservation de l'espèce.
Alors justement, où est-ce que vous intervenez exactement et comment?
Alors, on intervient dans des zones clés pour les requins-marteaux, notamment aux îles Galapagos, aux îles Coco, à Malpelo, dans les Caraïbes. Donc, on fait des patrouilles anti-braconnage pour dissuader les braconniers.
Et globalement, est-ce que vous obtenez des résultats?
Ah bah bien sûr, parce que la présence en fait anti-braconnage sur place en elle-même est extrêmement dissuasive. Donc ça permet de limiter le braconnage, c'est ce qu'on fait depuis l'an 2000, notamment aux Galapagos. Il y a encore énormément de braconnage, on a besoin de plus de moyens, de plus d'efforts. S'il y a des fonds à investir dans la préservation de l'espèce, c'est là qu'il faut le faire.
Et qu'est-ce que vous attendez de ce dépôt de plainte?
Alors ce qu'on attend du dépôt de plainte, c'est surtout de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé depuis la capture des requins-marteaux en Australie jusqu'à la fin tragique qu'on connaît, et surtout s'assurer que Nausicaa ne recommence pas l'expérience, puisqu'ils l'avaient déjà fait en 2011, ils ont recommencé l'année dernière, en 2018. Stop, ça suffit, il faut arrêter là.
Merci Lamia Essemlali.
Merci à vous.
Alors malgré ce constat alarmant, il y a des pistes de solutions. Nous en parlons avec nos invités après une pause pour nous détendre. On en a bien besoin. En bonne compagnie, Simon & Garfunkel.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus et puis en fait, elle commence un petit peu à être sur le côté. Et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule, et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça, c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr. Someone told me it's all happening at the zoo. I do believe it's true. A light and tumble journey from the east side to the park, just to find.
It's all happening at the zoo. I do believe it. I do believe it's true. The monkeys stand for honesty. Giraffes are insincere. And the elephants are kindly, but they're dumb. Orangutans are skeptical of changes in their cages. And the zookeeper is very fond of rum. Zebras are reactionaries. Antelopes are missionaries. Pigeons plot in secrecy. And hamsters turn on frequently. What the yes! At the zoo, 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 at the zoo.
On est dans la réserve Monsieur Luna et vous écoutez C'est pas du vent sur la RFI.
Allô.
Là je disais le chef descend au lac bleu. Quoi reçu?
Ils sont en nombre de combien?
Là ils sont à 4. Ouais, le couple blanc plus le chef. Comment reçu?
Bien reçu.
Ok.
Nous sommes dans la réserve de Lesio Luna, à 160 km au nord de Brazzaville, une réserve qui accueille depuis 1994 des gorilles victimes du braconnage. Florent Ecoli, là ça y est, les nurses, c'est-à-dire les femmes qui s'occupent des bébés et des juvéniles gorilles, nous ont appelés parce que elles les ont fait sortir et on va donc pouvoir les apercevoir.
Oui. En général, le matin, elles vont avec et ils sont dans la nature. Mais pour la circonstance, ils vont les rapprocher sur une plateforme et nous allons bel et bien les voir de visu.
Et alors, comment ça se passe quand vous accueillez un bébé gorille ici, quand on vous en apporte un? Quelles sont les premières actions?
En fait, c'est la phase de prise en charge. La phase de prise en charge est beaucoup plus vétérinaire. Hein. Après, il y a la quarantaine qui suit. Hein, et durant cette période-là, c'est beaucoup plus le travail de vétérinaire et de nurses qui sont toujours là pour donner plus d'affection à un bébé gorille parce qu'ils sont très, très, très émotifs. Et s'il n'y a pas d'affection, le gorille se laisse mourir. Ils sont très sensibles dans cette phase de prise en charge.
Vous me disiez, ils arrivent déprimés.
La plupart du temps, ils arrivent très déprimés, stressés et déshydratés même. C'est presque difficile et extrêmement difficile de sauver un bébé gorille lorsqu'il arrive parce qu'émotionnellement, il a perdu tous ses parents. À la limite, il n'arrive même pas à manger. Et donc, il faut apporter beaucoup d'affection maternelle, et là, c'est la raison d'être des nurses. Lorsque le petit se sent aimé, se sent vraiment en confiance, et c'est en ce moment-là qu'il reprend la sensation de pouvoir chercher à déguster quelque chose.
Je vois qu'une des nurses nous a rejoint. Vous pouvez nous présenter?
C'est Catherine Missilou, et c'est la doyenne des nurses qui a beaucoup d'expérience sur le sauvetage, disons le sauvetage des bébés gorilles orphelins.
Bonjour madame.
Bonjour.
Vous travaillez ici depuis combien de temps?
Je travaille avec les bébés gorilles depuis 22, ça fait déjà 22 ans que je suis ici.
Oh, c'est une passion alors?
Vraiment.
Quelle est votre relation avec ces bébés?
Elle est toute particulière. Je m'occupe des bébés gorilles orphelins. Il y a de ces moments quand ils arrivent, ils sont déshydratés, je m'occupe d'elles, je fais tout mon mieux pour leur entretien.
Vous leur faites des câlins, vous leur donnez beaucoup d'affection, comme une vraie maman?
Vraiment, l'affection entre Les bébés humains et les bébés gorilles, pour moi, les bébés gorilles sont super.
Pourquoi ils sont super?
Mais tellement que je suis habituée avec eux et je passe plus de temps avec les bébés gorilles que mes propres enfants. Donc vraiment, l'amour est tellement, tellement trop.
Ils vous le rendent, cet amour?
Mais oui. Parce que il y a une génération que j'ai élevée. Quand elle a mis bas, dès que je suis allée la rendre visite, elle est venue vers moi avec le bébé pour me montrer le bébé. Et j'étais très contente.
Vous êtes émue encore en parlant aujourd'hui?
En tout cas, trop même.
Vous faites partie de la famille en fait?
Vraiment, de la famille des gorilles, bien que naturellement je ne suis pas gorille, mais c'est ça.
Réintroduire les animaux victimes de braconnage ou de trafic dans des parcs naturels de transition avant le retour à la vie sauvage, voilà qui pourrait être une solution, Jérôme Pensu. Et c'est le principe de la station zoologique Biome que vous avez créée.
Alors c'est exactement le principe de la station zoologique Biome que nous tentons de créer. Parce que en fait, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 10 ans et pour lequel notamment l'association des parcs zoologiques et en gros tous les parcs zoologiques de France émettent une opposition catégorique, puisque du coup par effet miroir, on va créer un établissement dont l'objet est reproduire des espèces en danger d'extinction sans présentation au public, avec mise à disposition des États pour restitution. On part du principe que la biodiversité est un trésor qui doit être restitué aux États, puisque nous en avons quand même beaucoup profité. Et comme parallèlement à ça, nous sommes régulièrement réquisitionnés par les procureurs de la République dans le cadre d'affaires entraînant du trafic d'animaux sauvages. Des espèces sont saisies, des individus sont saisis. Et parfois, on a ce qu'on appelle un effet cul-de-sac. On se retrouve avec des espèces qui ne pourront pas regagner la nature. L'objet des saisies, quand on les gère, l'objet c'est retour à la nature ou rapatriement à minima dans une réserve, y compris une réserve surveillée dans le pays d'origine. Mais parfois, on a un cul-de-sac. Cul-de-sac parce qu'on est sur des espèces consanguines qui ne pourront jamais se réadapter, etc. Et dans ces conditions, l'objet c'est de les garder dans un établissement qui sera ouvert au public à vocation pédagogique et pour lequel le moindre centime qui est fait par les visites est réinvesti dans le financement des installations de protection et dans la conservation. Et en fait, on nous a reproché de vouloir faire un zoo, ce qui n'a rien à voir avec un établissement zoologique, puisque la finalité n'est pas commerciale.
Alors quand on parle de trafic, en quelques mots, faut poser vraiment les enjeux. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot trafic?
En fait, faut reposer le décor. C'est-à-dire que dans les années 70, on a tous assisté à des émissions de télévision, à des reportages où on avait des caisses d'animaux qui arrivaient dans les aéroports avec des animaux qui mouraient dans des hangars de froid parce qu'ils étaient en transit, tout ça pour aller alimenter les animaleries parisiennes, les zoos, etc. Aujourd'hui, le paysage a changé de façon considérable. Le trafic, c'est faire passer une espèce illégalement acquise pour une espèce légalement acquise, en trafiquant son marquage et ses papiers. Aujourd'hui, il y a un cadre législatif qui vient de passer en 2018, un cadre réglementaire, pardon, qui vient de passer en 2018, qui permet de faciliter la détention des espèces, qui permet de faciliter le trafic et qui permet et qui a complexifié le contrôle des établissements.
Mais c'est-à-dire qu'on parle de biodiversité en France, en Europe, à quelle échelle?
En France. Mmh. En France, vous aviez une législation qui est sortie en 2004, le 10 août 2004, et qui fixait les conditions de détention des animaux sauvages en captivité. Et puis, sur pression des associations d'éleveurs, sur pression de l'AFDPZ, donc les parcs zoologiques, on a essayé ou réussi à faire croire au ministère, dont certains fonctionnaires sont extrêmement complaisants, que, en fait, bon, le marquage par bague pour les oiseaux, c'est pas indispensable. Bon, s'ils ont pas les papiers, bon, voilà, on peut, oui, d'accord, là, on n'aurait pas le droit les commercialiser, mais nous on les commercialise pas, on les présente juste au public, c'est pas du commerce la présentation au public. Or la CITES, et Dieu sait si elle est défaillante sur pas mal de choses.
Donc c'est la convention internationale qui régule les trafics d'espèces,
qui gère le commerce de la faune sauvage. La CITES précise donc que pour vendre une espèce, il y a deux possibilités: soit cette espèce a été acquise avant qu'une interdiction soit posée sur l'espèce, soit elle est née issue d'un couple légal en milieu captif et contrôlé. Il n'y a aucune autre solution pour pouvoir exploiter financièrement des espèces.
Donc aujourd'hui, tout ce qu'on entendait tout à l'heure concernant la Chine qui fait venir par exemple des animaux sauvages d'Afrique, tout cela est illégal?
Alors ça l'est et ça ne l'est pas, c'est-à-dire qu'en fait la spécificité de la CITES, c'est que le pays exportateur va donner des autorisations. Et si le Zimbabwe va dire « mes éléphants », c'est ce qui se passe actuellement, partent avec un CITES, c'est-à-dire un papier, un document, qui dit « ils partent pour de la conservation », on a le droit de les exporter. Et il faut arrêter de se cacher. Tous les animaux qui partent en Chine aujourd'hui vont terminer dans les zoos européens et les zoos français.
Pourquoi ? Parce qu'en Chine, ils ont l'air d'avoir
envie. Par le biais des échanges, en fait, on s'échange, puisque le principe, c'est d'échanger des animaux et d'éviter d'aller prélever dans la nature. Donc on fait prélever par les autres, les Chinois, qui sont beaucoup moins regardants, et ensuite, ça viendra dans les établissements européens.
Florian Sigonde, est-ce que c'est la même chose pour les cétacés ?
Oui, c'est exactement ça. Sur la question, du coup, par exemple, de la Chine, on se rend compte, avec les différents rapports, que même si aujourd'hui, on a interdit l'importation et le commerce des cétacés par un texte européen, on se retrouve avec, entre 1979 et 2008, 285 cétacés qui se retrouvent dans les parcs, dans les delphinariums, alors qu'ils ne devraient pas y être. On a un véritable blanchiment, et ce blanchiment, quand on remonte, on se rend compte que c'est lié notamment sous des couverts de traditions et de cultures qui se discutent et qui se dénoncent, sur notamment la baie de Taiji au Japon, où chaque année, plus de 22 000 cétacés sont rabattus, mis à mort, et les plus beaux de ces animaux sont sélectionnés directement par les delphinariums. Ensuite, on les envoie dans les pays qui ont une véritable demande pour l'ouverture de ces parcs, comme je vous le disais tout à l'heure sur l'exemple de la Chine, et petit à petit, on les retrouve en Europe avec ce système de blanchiment, et vu qu'on n'y sont pas identifiés, ils ne sont pas suivis, et que nous ne nous donnons pas les moyens réglementaires, notamment de mettre en place des réglementations qu'on vérifierait, on se retrouve sur un système de trafic international des espèces.
Et avec des conditions de détention complexes, puisque vous avez porté plainte, vous aussi, contre le Marineland d'Antibes, dans le sud de la France.
Oui, effectivement, on a porté plainte contre le Marineland d'Antibes. Alors, ce n'est pas la première plainte pour l'association Cétacés, c'est la seconde. Là, cette fois, elle est à la fois sur les ours polaires. On peut se poser la question, peut-on aujourd'hui et doit-on aujourd'hui, sous des couverts de conservation des espèces, exposer des ours polaires sous un climat méditerranéen ? On a interpellé le ministre à ce sujet, toujours pas de réponse, toujours aucune volonté de discuter et d'avancer sur les questions de bien-être animal.
Mais une pétition qui recueille de plus en plus de signatures.
Oui, pétition qui a été remise au ministre, mais du coup la plainte elle porte sur les ours polaires, mais elle porte surtout sur les conditions de détention des dauphins, où ça fait 4 mois que 7 de leurs 11 animaux vivent dans un bassin de 1,20 m de profondeur et qui est plein d'algues. Alors même que le responsable animalier du Marineland d'Antibes dit que... il y a quelques années, un de leurs dauphins est mort d'une ingestion d'algues. Alors après, on nous parle de bien-être animal, on essaye de nous faire avaler des couleuvres avec des idées, des vœux. Enfin, pour continuer cette industrie du spectacle, cette industrie de la captivité, de faire des mesurettes, augmenter la taille des bassins. Enfin, on ne parle pas de surface pour des cétacés, on parle de volume. Sauf qu'aucun bassin ne sera aussi grand que l'océan. Alors il faut penser notre regard sur l'animal et sur l'animal sauvage.
Mais alors, il y a quand même des discussions en ce moment au sein du gouvernement français. Vous êtes reçus, vous et d'autres associations, ainsi que des représentants des cirques, des aquariums, des zoos et des parcs animaliers, pour parler du bien-être animal pour les animaux sauvages en captivité. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? Il y avait une loi en 2017 qui a été retoquée par le Conseil d'État.
Effectivement, on a travaillé pendant 4 ans depuis la création de l'association en lien avec les parlementaires et les différents ministres de l'écologie et de la transition écologique et solidaire, comme on les appelle aujourd'hui. L'idée, c'était de réfléchir à quelles nouvelles conditions de détention de ces animaux, notamment à la volonté des parcs, qui eux savent qu'il va falloir avancer, il va falloir évoluer, mais qui ne veulent pas remettre en cause le système d'exploitation qu'ils mettent en place. Alors, on a obtenu en 2017 un arrêté qui interdisait la reproduction des cétacés en France, donc ce qui mettait fin à terme à la captivité de ces animaux. Or, forcément, les delphinariums ont porté plainte au niveau du Conseil d'État et ont obtenu un vice de forme sur la manière dont le texte est passé. Et donc là, ça fait 2 ans qu'avec toutes les ONG, on retravaille à l'élaboration d'un texte. On était encore reçus hier à la demande des différents ministres, parce que là, on est également avec le ministre de l'économie, parce que les parcs jouent la question de l'emploi, alors que ça correspond qu'à 20 emplois de soigneurs, avec les nouvelles réglementations dont on discute. Et également, l'idée, c'est donc de retourner sur un texte qui interdit la captivité de ces animaux, mais également, du coup, reprendre un peu de recul, interdire et reconsidérer la notion de spectacle, interdire les programmes d'interaction, donner un nouveau regard sur l'animal. Et les parcs l'ont déjà compris. Si on prend l'exemple du Marineland d'Antibes, sa dernière attraction, c'est pas un nouveau bassin à orques, c'est un cinéma en 5 dimensions, où on peut voir les beautés de l'océan. Est-ce que c'est pas ça la meilleure façon aujourd'hui de sensibiliser et de réfléchir à notre regard à l'animal? Moi, je pense que c'est une porte de sortie, et donc on espère que ce texte aboutira dans les prochains mois et que derrière, on pourra enclencher une nouvelle phase qui est la réhabilitation de ces animaux.
Oui, finalement, ça serait ça la conclusion de cette émission, Jérôme Pensu, c'est qu'il faudrait arrêter de mettre des vrais animaux dans les zoos, développer les films en 3D, puis réintroduire ceux que l'on peut réintroduire.
Alors ça pourrait être ça, en fait, la vraie solution, c'est d'avoir une véritable volonté de dire on arrête le trafic d'animaux sauvages. On a fait une proposition au ministère, un document qui s'appelle 5 propositions pour enrayer le trafic d'animaux sauvages. Dans la consultation de 2018 de Nicolas Hulot sur la biodiversité, ces propositions-là sont arrivées en tête. C'est-à-dire, il y avait la première proposition qui était portée par FNE. C'était France Nature Environnement. Les 6 autres, c'était celle du biome pour enrayer le trafic d'animaux sauvages. Pas de son, pas d'image. Et dans le rapport qui met en évidence les 92 000 personnes qui ont été consultées sur ce, on ne parle pas d'une seule de nos propositions. C'est-à-dire qu'il y a un véritable désir de ne pas regarder ce qu'est le trafic d'animaux sauvages. On a mis les pieds dans la mare depuis très très longtemps sur le sujet. Il n'y a pas de volonté et les parcs bénéficient. Il y en a certains qui sont relativement corrects. Il ne faut pas mettre non plus tout le monde dans le même bain. Mais en règle générale, les parcs et la FDPZ bénéficient d'une écoute très très favorable et des parlementaires et du ministère. Et on ne veut pas entendre qu'ils peuvent jouer un rôle certaines fois dans le trafic.
Et en bout de chaîne, il y a vous, Perrine Crosemary, qui essayez en Tanzanie de réintroduire les animaux dans des parcs naturels. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité et pour vos nombreux messages sur les réseaux sociaux. Continuez, nous sommes ravis de vous lire. Hashtag CPDV, tout simplement. Prenez soin de vous et des vôtres et rendez-vous la semaine prochaine. Même planète, même heure. Long time ago, he saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hair. I think I'll call it a bear. Long time ago, he saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.